Femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale.
J'ai du caractère, c'est tout.
Pour une femme, le droit au travail, c'est pas seulement une aliénation, c'est surtout une libération. Ouais, ça dépend pas desquelles, c'est pour toutes les femmes, c'est la même chose. Il y en a marre des femmes au foyer.
Eh ben les gars, ils continuent à voter tant que ça peut et chaque coup c'est pareil.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Poésie Chronique. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, une carte blanche et rouge qui m'a été donnée par Baptiste Caruana, merci beaucoup. Et on est aujourd'hui avec plusieurs invités, Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Héloïse.
Bonjour.
Inga.
Salut, salut.
Et Olivo.
Bonjour.
Ça va être une émission qui va être en deux parties, la première sur l'aliénation. Donc je vais vous lire un texte de Karl Marx, après on parlera avec de Thibaut un peu de son vécu. Et après donc la deuxième partie sera sur la domination patriarcale. Donc là, je vais vous lire un extrait des manuscrits de 1844. Nous partons d'un fait économique actuel. L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise d'autant plus vile qu'il crée plus de marchandises. La dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses. Le travail ne produit pas que des marchandises, il se produit lui-même et produit l'ouvrier en tant que marchandise, et cela dans la mesure où il produit des marchandises en général. Ce fait n'exprime rien d'autre que ceci. L'objet que le travail produit, son produit, l'affronte comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, concrétisé dans un objet. Il est l'objectivation du travail. L'actualisation du travail est son objectivation. Au stade de l'économie, cette actualisation du travail apparaît comme la perte pour l'ouvrier de sa réalité. L'objectivation devient comme la perte de l'objet ou l'asservissement à celui-ci. L'appropriation comme l'aliénation, le dessaisissement. La réalisation du travail se révèle être à tel point une perte de réalité que l'ouvrier perd sa réalité jusqu'à en mourir de faim. L'objectivation se révèle être à tel point la perte de l'objet que l'ouvrier est spoilé non seulement des objets les plus nécessaires à la vie, mais encore des objets du travail. Oui, le travail lui-même devient un objet dont il ne peut s'emparer qu'en faisant le plus grand effort, avec les interruptions les plus irrégulières. L'appropriation de l'objet se révèle à tel point être une aliénation que plus l'ouvrier produit d'objets, moins il peut posséder, et plus il tombe sous la domination de son produit, le capital. Toutes ces conséquences se trouvent dans cette détermination. L'ouvrier est à l'égard du produit de son travail dans le même rapport qu'à l'égard d'un être étranger. Car ceci est évident par hypothèse, plus l'ouvrier s'extériorise dans son travail, plus le monde étranger objectif qu'il crée en face de lui devient puissant, plus il s'appauvrit lui-même, et plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. Il en va de même dans la religion, plus l'homme met de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, mais alors celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. Donc plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est sans objet. Il n'est pas ce qu'est le produit de son travail. Donc plus ce produit est grand, moins il est lui-même. L'aliénation de l'ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome vis-à-vis de lui, que la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. Examinons maintenant de plus près l'objectivation, la production de l'ouvrier et, en elle, l'aliénation, la perte de l'objet de son produit. L'ouvrier ne peut rien créer sans la nature, sans le monde extérieur sensible. Elle est la matière dans laquelle son travail se réalise, au sein de laquelle il s'exerce, à partir de laquelle et au moyen de laquelle il produit. Mais de même que la nature offre au travail les moyens de subsistance, dans ce sens que le travail ne peut pas vivre sans objets sur lesquels il s'exerce, De même, elle fournit aussi d'autre part les moyens de subsistance au sens restreint, c'est-à-dire les moyens de subsistance physique de l'ouvrier lui-même. Donc, plus l'ouvrier s'approprie par son travail le monde extérieur, la nature sensible, plus il se soustrait de moyens de subsistance sous ce double point de vue, que premièrement, le monde extérieur sensible cesse de plus en plus d'être un objet appartenant à son travail, un moyen de subsistance de son travail, et que deuxièmement, il cesse de plus en plus d'être un moyen de subsistance au sens immédiat, un moyen pour la subsistance physique de l'ouvrier. De ce double point de vue, l'ouvrier devient donc un esclave de son objet. Premièrement, il reçoit un objet de travail, c'est-à-dire du travail, et deuxièmement, il reçoit des moyens de subsistance. Donc, dans le sens qu'il lui doit la possibilité d'exister premièrement en tant qu'ouvrier et deuxièmement en tant que sujet physique, le comble de cette servitude est que seule sa qualité d'ouvrier lui permet de se conserver encore en tant que sujet physique. Et que ce n'est plus qu'en tant que sujet physique qu'il est ouvrier. L'aliénation de l'ouvrier dans son objet s'exprime selon les lois de l'économie de la façon suivante. Plus l'ouvrier produit, moins il a à consommer. Plus il crée de valeur, plus il se déprécie et voit diminuer sa dignité. Plus son produit est de forme, plus l'ouvrier est difforme. Plus son objet est civilisé, plus l'ouvrier est barbare. Plus le travail est puissant, plus l'ouvrier est impuissant. Plus le travail s'est rempli d'esprit, plus l'ouvrier a été privé d'esprit et est devenu esclave de la nature. L'économie politique cache l'aliénation dans l'essence du travail par le fait qu'elle ne considère pas le rapport direct entre l'ouvrier, le travail, et la production. Certes, le travail produit des merveilles pour les riches, mais il produit le dénuement pour l'ouvrier. Il produit des palais, mais des tanières pour l'ouvrier. Il produit la beauté, mais l'étiolement pour l'ouvrier. Il remplace le travail par des machines, mais il rejette une partie des ouvriers dans un travail barbare. Il fait de l'autre partie des machines. Il produit l'esprit, mais il produit l'imbécilité, le crétinisme pour l'ouvrier. Le rapport immédiat du travail à ses produits est le rapport de l'ouvrier aux objets de sa production. Le rapport de l'homme qui a de la fortune aux objets de la production et à la production elle-même n'est une conséquence de ce premier rapport, et il le confirme. Si donc, nous posons la question, quel est le rapport essentiel du travail, nous posons la question du rapport de l'ouvrier à la production. Nous n'avons considéré jusqu'ici l'aliénation, le dessaisissement de l'ouvrier, que sous un seul aspect, celui de son rapport au produit de son travail. Mais l'aliénation n'apparaît pas seulement dans le résultat, mais dans l'acte de la production à l'intérieur de l'activité productive elle-même. Comment l'ouvrier pourrait-il affronter en étranger le produit de son activité si dans l'acte de production même, il ne devenait pas étranger lui-même? Le produit n'est en fait que le résumé de l'activité de la production. Si donc le produit du travail est l'aliénation, la production elle-même doit être l'aliénation en acte. L'aliénation de l'activité, l'activité de l'aliénation. L'aliénation de l'objet du travail n'est que le résumé de l'aliénation, du dessaisissement dans l'activité du travail elle-même. Sur Poésie Chronique, à la suite de ce texte, nous allons écouter le témoignage de Thibaut. Est-ce que tu as vécu un peu une forme d'aliénation dans...
Forme d'aliénation, alors j'ai travaillé dans une forme d'usine. C'était pas l'usine en chaîne où on fait tout le temps le même travail répétitif, et qu'au bout d'un moment, juste, ben, ça devient concrètement une forme d'aliénation. J'ai pu le ressentir dans le vécu des autres ouvriers avec qui j'ai travaillé, qui pour le coup sont eux restés moins longtemps. J'ai travaillé 6 mois dans la même entreprise. Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'avais envie de travailler. Je suis arrivé en ayant la niaque, j'avais qu'une envie, c'était de me faire reconnaître par la boîte et de me faire embaucher. Puis j'ai réalisé en fait qu'ils profitaient juste de ma force de travail. Les hommes sont vus comme étant des chiffres et il n'y a plus du tout cet aspect où ah, ça peut être un père de famille, ça peut être un jeune qui a besoin de, qui a envie de faire dans l'art ou dans autre chose. Pour moi, c'est une forme d'aliénation.
Qu'est-ce que t'aimerais faire, toi, autre que ça, du coup ? Qu'est-ce qui te ferait vivre et porter, en fait ?
Il y a un truc que j'ai réalisé ces derniers temps. Notre génération, en tout cas, c'est une impression personnelle, hein. Il n'y a rien de statistique, scientifique ou quoi, mais j'ai beaucoup plus l'impression que notre génération a très envie de découvrir énormément de choses et qu'elle n'aura pas un métier fixe comme les générations précédentes ont pu l'avoir. Souvent, quand je parle avec les anciens, ils étaient plus en quête d'avoir un boulot stable, c'était plus ça leur forme de reconnaissance sociale.
Est-ce que dans les comportements intérimaires, du coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier que tu aimerais changer, tu sais, dans ce rapport à toi, en fait, envers toi ? Comment tu aimerais qu'on t'envisage ?
Je ne veux pas être considéré comme étant une valeur marchande, une force de production. Je veux être considéré comme étant une force intellectuelle et comme étant un humain qui a cette envie de travailler et non ce besoin. Qui va au travail pour apprendre et pour se développer, que ce soit intellectuellement, physiquement ou socialement, de tendre vers quelque chose d'inconnu et du coup d'apprendre des autres, de soi-même, etc.
Moi j'avais juste un truc à préciser, juste que quand tu travailles par intérim pour l'entreprise, tu ne rentres pas dans la masse salariale.
C'est exactement ça. Et on sent la différence aussi. Il y a des ouvriers qui sont employés et des ouvriers intérimaires. Et on sent qu'il y a cette tension en soi, les intérimaires et les ouvriers qui ne sont pas chefs de secteur ou quoi, ils sont censés être considérés comme étant égaux. Bien souvent, on voit quand même qu'il y a une forme de discrimination vis-à-vis de ça, où les ouvriers... Alors, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. En soi, c'est plus un effet de groupe. Il n'y a pas quelqu'un qui va cibler un intérimaire et ça va être du harcèlement ou quoi. Mais c'est plus dans le comportement, ça va être des petites phrases.
T'arrives, t'as pas ton vestiaire, par exemple, alors qu'on est censé avoir les mêmes droits en tant qu'employé. En fait, fondamentalement, t'as pas les mêmes droits.
Exactement, c'est ça.
Et ils y peuvent rien d'ailleurs, les autres employés. Souvent, ils sont assez cool, machin.
La plupart du temps, je m'entends très bien avec la majorité des employés. Enfin, la majorité des employés que j'ai côtoyés, je me suis super bien entendu avec eux. Mais c'est dans ce fonctionnement-là où c'est l'intérimaire qui va le faire. Faut faire les poubelles. C'est l'intérimaire qui va le faire. Tu vois, il y a ce truc. Alors que tous les employés sont censés être égaux, que ce soit intérimaire ou non, il y a quand même cette discrimination, qu'elle soit
implicite.
Implicite, exactement.
They used to be heard about.
l'émancipation des femmes dans une société est la mesure naturelle de l'émancipation générale de cette même société. La lutte pour la libération des femmes. Clara Zetkin. Il n'est pas surprenant que les réactionnaires aient une conception réactionnaire du travail féminin, mais il est extrêmement surprenant de rencontrer dans le camp socialiste une conception erronée qui consiste à exiger la suppression du travail des femmes. Le problème de l'émancipation des femmes, c'est-à-dire en dernière instance celui du travail féminin, est un problème économique. Et l'on est fondé à entendre, et l'on est fondé à attendre des socialistes une meilleure compréhension des problèmes économiques. Les socialistes doivent savoir qu'en l'état actuel du développement économique, le travail féminin est une nécessité, que le travail féminin devrait aboutir normalement soit à une réduction du temps de travail, que chaque individu doit à la collectivité, soit à un accroissement des richesses de la société. Que ce n'est pas le travail féminin en soi qui, par le jeu de la concurrence, fait baisser les salaires, mais l'exploitation de ce travail par les capitalistes. Les socialistes doivent avant tout savoir que l'esclavage social ou la liberté repose sur la dépendance ou l'indépendance économique. Il n'est pas permis à ceux qui combattent pour la libération de tout le genre humain de condamner la moitié de l'humanité à l'esclavage politique et social par le biais de la dépendance économique. De même que le travailleur est sous le joug du capitaliste, la femme est sous le joug de l'homme, et elle restera sous le joug aussi longtemps qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. La condition sine qua non de cette indépendance économique, c'est le travail. Si on veut faire des femmes des êtres humains libres, des membres de la société à part entière au même titre que les hommes, il ne faut ni supprimer, ni limiter le travail féminin, sauf dans quelques cas exceptionnels. Les travailleuses qui veulent accéder à l'égalité sociale n'attendent rien pour leur émancipation du mouvement féministe bourgeois qui prétend lutter pour les droits de la femme. C'est une construction bâtie sur le sable qui ne repose sur aucune base sérieuse. Les travailleuses sont absolument convaincues que le problème de l'émancipation des femmes n'est pas un problème isolé, mais qu'il fait partie de l'ensemble de la question sociale. Elles savent pertinemment que ce problème ne pourra trouver de solution tant que la société actuelle n'aura pas subi des transformations fondamentales. La question de l'émancipation des femmes est née avec les temps modernes, et c'est la machine qui l'a engendrée. L'émancipation de la femme, cela signifie la complète modification de sa position sociale, une révolution de son rôle dans la vie économique. Les anciens modes de production, avec leurs moyens de travail imparfaits, enchaînaient la femme à la famille et limitaient son champ d'action à son foyer. Au sein de la famille, la femme constituait une main-d'œuvre extrêmement productive. Elle fabriquait presque tous les objets de nécessité courante. Compte tenu du développement de la production et du commerce de l'époque, il aurait été en outre extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de fabriquer ces articles hors de la famille. Tant que durèrent ces rapports de production, la femme fut productive sur le plan économique. La machine a mis fin à l'activité économique de la femme, dans la famille. La grande industrie fabrique tous les articles à meilleur prix, plus rapidement et en plus grande quantité que ne pouvait le faire l'industrie individuelle, qui ne disposait que d'outils imparfaits pour une production à très petite échelle. Souvent, la femme était obligée de payer la matière première achetée au détail plus cher que le produit fini de la grande industrie. À ce prix d'achat, elle devait ajouter son temps et sa peine, si bien que l'activité productive dans la famille était devenue un non-sens économique, un gaspillage des forces et de temps. Bien que dans des cas isolés, l'activité productrice de la femme au foyer puisse être encore utile, il n'en reste pas moins que ce genre d'activité constitue une perte pour la société. C'est la raison pour laquelle la ménagère du bon vieux temps a presque totalement disparu. La grande industrie a rendu sans objet la production à domicile de biens destinés aux membres de la famille. Mais simultanément, elle a créé les bases de l'activité de la femme dans la société. La production mécanique, qui peut se passer de force musculaire et de qualification, a permis d'employer des femmes dans un vaste secteur de travail. La femme est entrée dans l'industrie dans le but d'augmenter les ressources familiales. L'évolution de l'industrie moderne a fait du travail féminin une nécessité. Et c'est ainsi que chacun des perfectionnements de la technique moderne a rendu superflu une partie de la main-d'œuvre masculine. Des milliers de travailleurs furent jetés à la rue. Une armée de réserve des pauvres s'est constituée. Et les salaires n'ont cessé de diminuer. Jadis, le salaire de l'homme, ajouté à l'activité productrice de la femme au foyer, suffisait à assurer l'existence de la famille. Maintenant, il suffit à peine à faire vivre un travailleur célibataire. Le travailleur marié est dès lors contraint de compter sur le travail salarié de sa femme. Cet état de choses a libéré la femme de la dépendance économique vis-à-vis de l'homme. La femme travaillant dans l'industrie ne pouvait plus dans la famille constituer un simple appendice économique du mari. Force économique indépendante de l'homme, elle a appris à se suffire. Or, si la femme n'est plus dépendante de l'homme sur le plan économique, il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit sur le plan social. Toutefois, cette indépendance ne profite pas pour l'instant à la femme elle-même, mais aux capitalistes, parce qu'ils détenaient le monopole des moyens de production. Le capitaliste s'est emparé de ce nouveau facteur économique et l'a utilisé à son avantage exclusif. Libérée de sa dépendance économique vis-à-vis de l'homme, la femme est passée sous la domination économique du capitaliste. D'esclave de son mari, elle est devenue l'esclave de son employeur. Elle n'avait fait que changer de maître. Elle a toutefois gagné au change. Sur le plan économique, elle n'est plus un être inférieur subordonné à son mari. Elle est son égale.
Bonjour, merci de nous écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon vécu de la domination patriarcale, notamment dans sa construction en tant que petite fille, femme ou juste individu. J'ai vécu dans notre société patriarcale actuelle, cette société prône et véhicule un modèle de la petite fille et de la femme, un modèle qu'il faut qu'on suive, entre guillemets. Je me souviens qu'on me disait « sois comme ci, pas comme ça, habille-toi comme ça ». Joue à tel jeu, pas à tel jeu. Joue au papa et à la maman avec tes petites camarades, mais ne va pas courir bêtement dans les champs et grimper aux arbres. Mets une jupe, pas un pantalon. Je me souviens que, par exemple, lors de réunions de famille, où on se retrouvait avec mes cousins, mes tantes, issues d'un milieu très traditionnel et religieux, il fallait absolument que je me mette en robe et en jupe. Et moi, je comprenais pas, j'étais absolument pas à l'aise dans ces vêtements. J'aimais pas comment je me présentais, comment je me sentais avec moi-même. Et mes parents me forçaient un peu à m'habiller comme ça. Alors, je les blâme pas, ils essayaient pas consciemment de perpétuer ce système patriarcal de la comment doit se présenter une petite fille, mais ils y étaient aussi très noyés. Et en fait, quand t'es petite fille, depuis ton âge, depuis tout petit, si tu ne suis pas ce modèle, t'es un garçon manqué, t'es un garçon manqué, t'es bizarre, t'es différent, il faut que tu suives, il faut que tu te conformises. Et moi, quand j'étais petite, garçon manqué, je me disais « ah ouais, c'est chouette, je suis pas comme les autres ». Sauf qu'en fait, en y réfléchissant, garçon manqué, ça veut clairement dire qu'il te manque quelque chose, que tu n'es pas comme les autres et qu'il faut que tu changes. Donc ça m'a énormément marquée et j'ai réussi en grandissant à me détacher de ce modèle et à prendre plus de l'indépendance par rapport à ça. Mais à l'inverse, si tu suis ce modèle d'une femme qui doit s'habiller comme ça, qui doit faire ci, ça, eh ben, ton corps est totalement sexualisé et ne t'appartient plus. Par exemple, la sexualisation de mon corps, j'ai pu la vivre dans ma très courte, très très courte expérience du domaine du monde du travail. J'ai travaillé quelques temps avec des agriculteurs et un jour, je suis venue en débardeur. Et je me suis pris toute la journée et les restes de la semaine qui suivait, beaucoup de réflexions comme « Ah, on voit tes épaules, c'est décolleté, qu'est-ce que tu essaies de draguer en t'habillant comme ça ?» Et en fait, moi, j'ai pas compris parce que vu que d'habitude, je m'habille de manière très masculine, j'ai pas du tout eu l'habitude de me prendre ce type de réflexion dans la gueule. Et je me suis dit « Mais en fait, je m'habille comme ça parce que j'en ai envie, parce qu'il fait chaud, qu'on est en pleine canicule, que je travaille dans des champs ou sous serre, et je m'habille pour personne d'autre, en fait. Et je comprends pas pourquoi d'autres individus se permettent de nous faire des remarques ou de donner un avis sur comment est-ce qu'on doit s'habiller. Donc voilà, cette domination patriarcale, elle nous dicte notre manière d'être, elle nous dicte notre manière de nous présenter, notre manière de vivre. Et même s'il y a eu, quelques améliorations, quelques avancées, ça reste vicieusement dans notre société. Ouais.
Alors moi du coup je vais parler de la domination patriarcale dans l'espace public parce que okay. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et du coup dans l'espace public comme son nom l'indique c'est quelque chose je pense que toutes les femmes ou personnes sexisées ou perçues comme telles vivent. Du coup voilà moi je parle en tant que femme blanche cisgenre pansexuelle d'un milieu plutôt favorisé. Donc ma première remarque dans la rue je l'ai reçue avant de rentrer en sixième. Donc voilà, pour situer, c'est une petite fille de 11 ans qui a une remarque sur son corps absolument pas consentie, évidemment. Et à partir de là, je comprends que mon corps de femme, il est soumis au jugement. Ensuite, je fais partie des personnes qui ont une puberté très très tôt. Et du coup, c'est vraiment un abonnement à partir de tes 11 ans aux remarques sexistes, aux sexistes pardon, et au harcèlement de rue. Et c'est en fait mon corps qui est sexualisé avant même que je conscientise ces questions-là et que moi-même j'appréhende ce corps que je connais pas par la puberté, etc. Et en fait, toutes ces remarques-là qui émanent de la rue et de l'espace public, elles sont très très insidieuses parce qu'après, en fait, on bascule dans la sphère privée. Puisque forcément, c'est quelque chose qui impacte, duquel on va parler avec la sphère amicale ou la sphère familiale, par exemple. Et c'est des remarques de « mais attention, réponds pas, provoque pas, rentre pas trop tard, cache-toi, rentre avec un garçon ». Et en fait, la responsabilité, elle est inversée, c'est-à-dire que c'est à moi de culpabiliser, de prendre des remarques, et si jamais je les reçois, c'est de ma faute. C'est quelque chose que le féminisme et la conscientisation de ce problème, en fait, ça m'a aidée à ne plus faire en fonction des hommes dans l'espace public. Et pourtant, je mets toujours des pantalons quand je vais en soirée sur les quais parce que j'ai peur. Quand je rentre, je mets des baskets parce qu'à tout moment, il faut que je cours pour rentrer. J'ai mes clés dans le poing, et pareil, quand je rentre tard. Et je suis rassurée quand je suis avec un garçon. Je pense qu'en fait, toutes les femmes avec lesquelles j'ai été, on peut s'asseoir autour d'une table et parler pendant des heures de toutes les remarques qu'on a prises dans la rue, ce que je ne vais pas faire maintenant parce que ça serait long et un petit peu chiant. En fait, l'espace public, c'est vraiment le théâtre de toutes les dominations brutes. Et c'est au-delà des classes sociales. Et c'est au-delà de beaucoup de choses, mais par contre, il y a quelque chose qui reste, c'est qu'il y a un genre dominant, et c'est l'homme en tant que groupe social. Et ça, j'espère qu'on pourra le résoudre par l'éducation, en parlant et en éduquant nos petits frères, nos petits cousins, nos petits voisins, et en expliquant aux filles que c'est pas de leur faute, et qu'en fait, il faut qu'on avance ensemble. Et je crois en l'éducation comme la solution à ce problème assez énorme, et pas très... on n'en parle pas beaucoup.
Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à mes Adelphes, Olivo et Héloïse, d'avoir parlé. Et merci beaucoup de m'avoir invitée sur le plateau. Moi, j'ai choisi de parler en tant que jeune femme, fille d'ouvrier migrant venant de l'Europe de l'Est, et bien de ce déchirement que l'on peut avoir, entre deux couches sociales radicalement différentes et contradictoires, à savoir entre une famille non seulement religieuse et traditionnelle, comme c'est déjà le cas pour beaucoup de Français et rien d'original, mais aussi et surtout une famille illettrée, dont l'assimilation à la culture européenne et wokiste, on espère pour plus tard, est très lente. Puis de l'autre côté, un entourage amical, un milieu très militant, composé principalement de la classe moyenne supérieure, voire supérieure tout court, englobant la bourgeoisie intellectuelle, donc mes adorées filles et fils des profs. En bref, imaginez. Votre routine est structurée de multiples dilemmes. Vous êtes comme un personnage de jeu vidéo qui est amené à choisir chacune de ses actions, commençant par les plus banales, comme se couper les cheveux, se raser les poils, mettre un soutien-gorge, etc. Et ces choix instables varient en fonction de qui tira la ficelle le plus fort. Les amis qui invitent à un drag show ce soir, ou bien la mère qui a besoin de vous faire pour faire la vaisselle après la cinquantaine d'hôtes invités par le papa. Les amis qui disent « Oh, mais j'adore ta salopette et ton undercut » pendant que la mère nous traite de lesbienne desséchée. Et toi, t'as envie de répondre « Maman, mais j'en suis une !» Puis l'inverse de la situation, lorsque tu n'as pas du tout la tête à papoter de la série Euphoria avec tes amis, lorsque tes deux patries sont en guerre actuellement, à savoir précisément l'Arménie et la Russie. La portée de mon témoignage, chers auditeurs, est « Mais qu'est-ce qu'on fait de ces femmes en transfuge permanent d'un côté à l'autre et en dualité constante entre deux univers parallèles, entre féminisme et attachement à sa culture originaire, bien que patriarcale? Qu'est-ce qu'on fait de ces doubles vies tout autant secrètes l'une pour l'autre? Donc comme vous avez pu voir après tous ces témoignages, la domination patriarcale est perverse et polymorphe et elle a besoin d'être cassée. Merci.
Baptiste, tu voulais faire une remarque ?
Non, juste dire que on fait une émission sur le patriarcat et on a passé une demi-heure à parler au début, c'était que des hommes. C'est la seule critique que j'ai à faire et merci de votre tolérance vis-à-vis de ça.
without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Je voulais juste rebondir quelques instants sur ce qu'on disait, sur le fait qu'à présent, la domination patriarcale est certes beaucoup moins économique, mais elle s'insinue dans toutes les formes de notre société. Je parle en tant que personne lesbienne, parce que même dans des relations lesbiennes où l'homme n'a pas lieu d'être, il y a toujours ce modèle patriarcal où souvent on a ce cliché d'une femme qui est plus masculine que l'autre. Ou que ce soit même, je vais parler crûment, dans le sexe. Et donc voilà, je voulais vraiment rajouter ça de tous les pores de la société et encore imbibé par ce patriarcat et cette domination qu'on peut subir.
Ouais, et je pense que, en fait, justement, c'est ce qui est encore peut-être plus vicieux du patriarcat, c'est que c'est vraiment insinué dans chaque port de notre société. Et souvent, on entend, oui, mais à part le salaire, il vous reste quoi? Il nous reste plein de choses, il nous reste mille choses, notamment dans les mentalités, dans tout ce que ça représente. Et oui, c'est ça. Enfin, je sais que j'ai eu notamment en lisant Virginie Despentes, que, en fait, le patriarcat est partout et s'insinue de partout. Et ces schémas de domination-là, on les retrouve notamment, évidemment, dans les relations, mais dans tout type de... Enfin, énormément de choses dans la société, on retrouve cette domination-là, et c'est celle qu'il faut casser. Je pense que c'est les derniers 100 mètres qui sont les plus compliqués, parce que la loi est OK, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont OK, mais maintenant, c'est les mentalités qu'il faut changer, et c'est le dernier travail qui nous reste.
C'est notre culture et nos mœurs, en fait, qu'il faut encore changer, et nos mentalités.
Et par l'éducation, on y arrivera. En ce moment décisif de notre histoire, rappelons-nous que nous, les centaines de milliers, les millions de femmes, de transgenres, d'hommes et d'enfants, qui sommes ici présents à la marche des femmes, nous représentons les forces puissantes du changement, déterminées à empêcher que ne resurgissent les cultures moribondes du racisme et de l'hétéropatriarchie. Nous considérons que nous sommes des agents collectifs de l'histoire et que l'histoire ne peut être effacée comme des pages web. Nous savons que nous nous rassemblons cet après-midi sur des terres indigènes et que nous suivons la voie des premiers peuples qui, malgré la violence génocidaire massive, n'ont jamais renoncé à la lutte pour leurs terres, leur eau, leur culture, leur peuple. Nous saluons particulièrement aujourd'hui la tribu Sioux de Standing Rock. Les luttes pour la liberté des Noirs, qui ont façonné la nature même de l'histoire de ce pays, ne peuvent être balayées d'un revers de la main. On ne peut nous faire oublier que les vies des personnes noires comptent aussi. L'histoire de ce pays est ancrée dans l'esclavage et le colonialisme, ce qui signifie, qu'on le veuille ou non, que la véritable histoire des États-Unis est une histoire d'immigration et d'esclavage. Propager la xénophobie, lancer des accusations de meurtre et de viol, et construire des murs n'effaceront pas l'histoire. Aucun être humain n'est illégal. La lutte pour sauver la planète, enrayer le changement climatique, garantir l'accès à l'eau aussi bien sur les terres des Sioux de Standing Rock qu'à Flint, dans le Michigan ou en Cisjordanie à Gaza. La lutte pour préserver notre faune et notre flore, pour préserver l'air, cette lutte constitue la base du combat pour la justice sociale. Ceci est une marche de femmes, et cette marche des femmes représente la promesse du féminisme contre le pouvoir pernicieux de la violence d'État. Un féminisme inclusif et intersectionnel, qui nous exhorte toutes et tous à rejoindre la résistance au racisme, à l'islamophobie, à l'antisémitisme, à la misogynie, à l'exploitation capitaliste. Nous saluons le combat pour le salaire minimum à 15$. Nous nous dédions à la résistance collective, résistance face aux millionnaires qui tirent profit des taux d'hypothèque et aux acteurs de la gentrification. Résistance face à ceux qui privatisent les soins de santé. Résistance face aux attaques contre les musulmans et contre les immigrants. Résistance face aux attaques contre les personnes handicapées. Résistance à la violence d'État perpétrée par la police et via le complexe industrialo-carcéral. Résistance à la violence de genre dans la sphère privée et la sphère publique, en particulier contre les femmes transgenres de couleur. Les droits des femmes sont les droits humains, partout dans le monde. Et c'est pourquoi nous réclamons liberté et justice pour la Palestine. Nous célébrons la libération imminente de Chelsea Manning et celle d'Oscar Lopez Rivera. Mais nous clamons aussi « Libérez Léonard Peltier, libérez Mumia Abu Jamal, libérez Assata Shakur ». Au cours des prochains mois et des prochaines années, nous serons appelés à intensifier nos revendications en faveur d'une plus grande justice sociale, militer encore plus pour la défense des populations vulnérables. Ceux qui défendent encore la suprématie de l'hétéropatriarcat du mâle blanc feraient bien d'être sur leur garde. Les 1459 jours restants de l'administration Trump seront 1459 jours de résistance. Résistance sur le terrain, résistance dans les salles de classe, résistance au travail, résistance par notre art et notre musique. Ce n'est que le début, et pour reprendre les mots de l'inimitable Ella Baker, nous qui croyons en la liberté, nous ne pourrons nous reposer avant qu'elle n'advienne. Merci.
Merci beaucoup donc pour ce excellent, franchement, waouh, merci énormément. Donc c'était Poésie Chronique, émission Carte Blanche et Rouge. Je suis Pierre Obissi et je remercie énormément Baptiste Carona de m'avoir laissé donc cette carte blanche et rouge. Et donc passez une très bonne soirée. Merci encore.
Ben, merci à vous, hein. Merci à vous toutes et tous, parce que ben, moi ça me permet de pas trop travailler pendant la semaine, mais non, c'était très beau, bravo pour ce que vous avez apporté en termes de lecture et de discours, je trouve ça hyper important. Je sais pas qui j'invite la semaine prochaine, mais en tout cas on se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse avec Cannabis Circus dans quelques minutes. À très bientôt.
Femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale.
J'ai du caractère, c'est tout.
Pour une femme, le droit au travail, c'est pas seulement une aliénation, c'est surtout une libération. Ouais, ça dépend pas desquelles, c'est pour toutes les femmes, c'est la même chose. Il y en a marre des femmes au foyer.
Eh ben les gars, ils continuent à voter tant que ça peut, et chaque coup c'est pareil.